comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
La Renaissance carolingienne.
Notre roi fit bâtir à Aix une basilique d'une extrême beauté. Il la fit orner d'or et d'argent, de balustrades, de portes et d'énormes candélabres, le tout en bronze massif. Quel temps merveilleux que cette époque-là!
C'est à Aix-la-Chapelle qu'il s'éteint au bout d'un demi-siècle ou presque de règne. Très exactement, le 28 janvier 814. Il est enterré aussitôt dans sa capitale. Une tradition veut qu'il ait été assis sur un fauteuil de marbre, écaillé d'or et un globe à la main, précise Victor Hugo. Enterré, assis, debout et Ginard. Témoin de première main, puisqu'il écrit dans les années 820, n'en dit rien. Il précise toutefois que Charlemagne mesurait 7 fois la longueur de son pied. Et conclut-il, bien qu'il eût un ventre assez proéminent, toute sa personne inspirait autorité et dignité, qu'il fût assis ou debout. La tombe d'Aix, depuis, a connu des fortunes diverses, mais la construction de l'image de Charlemagne, fabriquée par Eginhard et les autres acteurs de la Renaissance carolingienne, a tenu bon. L'espace de l'Empire était trop grand et trop divers pour durer. En revanche, l'effort fourni pour y établir des normes a perduré. Normes réglementaires, issues de la chancellerie, normes grammaticales et liturgiques, issues du monde des clercs, et normes mémorielles qui, 1200 ans après, fonctionnent toujours. Nous en sommes encore avec Eginhard à interroger la magnanimitas de Charlemagne.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Michel Sault, bonjour.
Bonjour.
Alors avec un atelier Eginhard, des jeunes doctorants, sous votre conduite et celle de Christiane Combe, vous faites une nouvelle édition, la première depuis 90 ans, de la Vita Caroli d'Eginhard. Alors Eginhard, on ne va pas tout dire tout de suite de lui, il est un peu moins connu que Charlemagne. Il avait un petit nom, Tinard.
Oui, alors selon certains auteurs, il était appelé Nardoulous, hein, le petit nard. Alors peut-être en raison de sa petite taille, mais peut-être est-ce tout simplement un terme d'affection.
Il y en avait d'autres, Bézéléel. Alors, ceux qui consultent votre édition sauront ce que veut dire Bézéléel.
Oui, Bézéléel, c'est l'architecte du temple dans la Bible. Et donc, il est le bâtisseur considéré comme sans doute responsable des constructions de Charlemagne et en particulier du palais d'Aix.
Homme de cour, il a fréquenté le palais d'Aix, mais il écrit sous le successeur de Charlemagne.
C'est très important de souligner que la vie de Charlemagne, par Eginhard, qui est notre principale source, celle qui construit la mémoire dont nous allons parler, est écrite au moins 10 ans après la mort de Charlemagne et sous le règne de son successeur. Donc c'est un témoin, bien sûr, mais c'est un témoin qui écrit dans une histoire nouvelle, qui est celle du successeur de Charlemagne.
Votre édition, c'est la fameuse édition Les Belles Lettres, les classiques de l'histoire de France du Moyen-Âge, avec le latin d'un côté, le français de l'autre. Vous avez présenté ça hier en Sorbonne, à l'occasion de la Saint-Charlemagne. Il y a encore une Saint-Charlemagne.
Alors, la Saint-Charlemagne était une tradition jusque sous la 4e République. Dans les lycées, les meilleurs élèves étaient reçus par le proviseur à goûter à 4 heures, enfin ceux qui avaient eu les félicitations au premier trimestre. Mmh. Et cette fête a disparu récemment, mais à l'Université de Paris, on a longtemps considéré que Charlemagne était le fondateur de l'université. Et alors, nous avons été très heureux cette année de célébrer en Sorbonne, le 28 janvier exactement, la Saint-Charlemagne. Il y a certainement très longtemps que ça n'était pas arrivé.
Je suis heureux de savoir que l'université elle-même améliore son histoire. C'est dire donc si la construction mémorielle autour de Charlemagne est solide. Elle est d'autant plus solide que notre ami Eginhard, la première source, dites-vous, inscrit Charlemagne dans une dynastie.
Il ouvre son livre par 3 chapitres qui sont en quelque sorte la préhistoire de Charlemagne. Et il montre la fin des Mérovingiens. Et comment ces derniers, c'est lui qui invente les chariots avec les rois fainéants dedans. Hein, c'est cette image nous vient d'Eginhard. Et il nous montre comment ces rois fainéants sont progressivement remplacée par la dynastie montante, qui est celle des Pépins, des Pipinides.
On aurait dû dire Pipinides.
On aurait pu dire les Pipinides. Alors, on a privilégié le nom de Charles, non pas d'ailleurs à propos de Charles Martel, mais à cause du nom de son grand-père, à propos du nom de Charlemagne, pardon, mais à cause du nom de son grand-père, Charles Martel, qui est celui avec lequel cette dynastie s'impose.
Charles Martel, Pépin III, le bref, en toile de fond, les rois chevelus, les rois fainéants, et puis Charles, qui va devenir Charlemagne. On devient Charlemagne parce qu'on multiplie les campagnes. La vie des Ginards raconte celle d'Aquitaine, celle contre les Lombards, mais voici ce qui se passe face aux Saxons. Vous pardonnerez, Michel Saun, nos coutumes un peu barbares, vous fiez au texte des Ginards. Nous allons vous produire, par exemple, des extraits de ce Charlemagne de Gabriel Winger qui a été diffusé sur Arte l'an passé.
Les Francs n'avaient jusqu'alors mené aucune guerre semblable à celle-ci. Une guerre absolument épuisante et qui semblait surtout ne pas vouloir prendre fin. Pourtant, elle aurait certainement pu se terminer bien plus tôt, ça ne fait aucun doute.
Continuez, Johannes, il ne faut pas vous arrêter.
Il est difficile d'imaginer combien de fois les Saxons ont été vaincus, combien de fois ils ont fait serment d'allégeance au roi, combien de fois ils ont promis de ne plus adorer les dieux païens et de se convertir au christianisme. Pourtant, les Saxons se sont toujours empressés de désobéir et de briser leurs serments. Nous en étions restés là.
Bien, dans ce cas, reprenons. Au cours de cette guerre, nombre de nobles ont péri, aussi bien chez les Saxons que chez les Francs. Certains d'entre eux étaient de hauts dignitaires.
Seront condamnés à mort tous ceux qui s'adonneront aux pratiques païennes. Toute personne qui offrira le corps d'un défunt aux flammes sera reconnue coupable. Sera condamnée à mort toute personne qui tuera un autre homme dans le but de l'offrir en sacrifice aux idoles païennes.
Votre cher Éginard dicte là, Michel Saun, un nommé Johannes, le récit de la conquête sur les Saxons et met en scène la perfidie des Saxons. À quoi il faut opposer une des grandes vertus de Charlemagne. On va faire l'inventaire de toutes les vertus en latin.
Oui, alors, on peut parler de la fidesse. Charlemagne, promoteur de la fidesse, de la foi et de la foi dans le vrai Dieu. C'est ce qui est présenté de façon évidemment arrangée dans le texte que nous venons d'entendre. Mais attention, toute conquête est en même temps une conquête que nous allons qualifier de politique et une conquête que nous allons qualifier de religieuse. C'est-à-dire que entrer dans la foi, faire entrer les Saxons dans la foi, est une nécessité absolue dans la perspective carolingienne. Ce qui va constituer l'Empire, l'unité de l'Empire, c'est l'unité de la foi.
Alors quand, après 778, la campagne ratée d'Espagne, la défaite dite de Roncevaux, Charlemagne s'aperçoit qu'il faut maintenir uni l'Empire, avec un secrétariat, une chancellerie, tout un système, les comtes, leurs délégués, les missis, dominici plus tard, il fait, dit-on, alliance avec l'Église. C'est bien plus qu'une alliance.
Oui, l'Église est l'institution romaine par excellence. C'est celle qui a traversé les siècles. Et il se trouve avec cette Église dont, je dirais, il fait le principal service public de l'Empire. Ce qui est tout à fait logique, puisque cet Empire est destiné à conduire le peuple au salut. Et donc, l'Église joue un rôle fondamental, les rapports avec les évêques sont fondamentaux, et l'empereur, comme je disais à l'instant, est à la fois chef de ce que nous appelons l'Église et de ce que nous appelons l'État. Les deux étant, j'allais dire, à peine distingués dans la perspective impériale. Le roi et l'Église, c'est deux choses différentes. L'empereur, c'est une notion qui réunit à la fois des éléments que nous appelons d'Église et des éléments que nous appelons de politique ou d'État.
Vous dites l'empereur, comme si le mot était arrivé de suite. C'est un tournant de la fin des années 780 et ça va être facilité aussi par la dernière campagne peut-être que mène Charlemagne personnellement, qui le mène jusque vers les plaines de Hongrie.
l'apparition de l'idée d'empire ou la réapparition de l'idée d'empire se fait, oui, dans ces années 780-800, en partie à la chancellerie romaine, autour du pape, en partie avec des gens, des grands intellectuels comme Alcuin, dont nous avons déjà prononcé le nom. Et le fait que Charlemagne ait étendu la puissance franque sur de vastes espaces, dont les Saxons que nous venons d'évoquer, dont les Avars dont vous parlez à l'instant.
Les Avars, ils sont en Hongrie.
C'est ça, dans l'actuelle plaine de Hongrie, où Charlemagne a détruit le palais, le ring des Avars, et qui était un lieu extrêmement riche d'où il rapporte des richesses considérables, et le butin joue un rôle très important dans l'établissement d'un empire, mais l'Empire lui-même sera prononcé, sera établi un petit peu plus tard.
La nuit de Noël 799 à Rome, à l'occasion du cinquième voyage de Charlemagne en Italie. Heureusement que ces explications très matérielles, le pillage des biens des Avars, sont filtrées par les intellectuels. Vous avez cité le nom d'Alcuin. Le voici mis en scène dans le docu-fiction d'Arte l'an dernier. Alcuin, c'est un Breton, enfin je veux dire un Anglais.
Oui. Hein,
et il fait partie de cette cour cosmopolite qui entoure Charlemagne et joue un rôle avant 800 de conseiller peut-être principal.
Flaccus, prêtre fidèle de la félicité éternelle en Jésus-Christ, présente au bien-aimé roi David ses salutations.
Je vous salue en retour, maître Alcuin.
Trois pouvoirs sont actuellement dominants dans le monde. D'abord, la dignité papale à Rome. Ensuite, la dignité impériale de Byzance. Le troisième est la dignité royale, dans laquelle, monseigneur, vous avez été institué par la volonté de Dieu comme chef du christianisme. Aujourd'hui déjà, votre pouvoir est plus éclatant que celui de tous les autres.
Effectivement. Et je sais aussi que vos paroles ne sont pas celles d'un flagorneur de cour. Et si c'est la volonté de Dieu, cher maître Alcuin, avec votre aide, j'emprunterai volontiers le chemin qui mène à la plus haute dignité du pouvoir temporel.
Le roi, il était, entre autres, l'équivalent du roi David d'Israël. Là, la titulature va s'élargir, il va monter plus haut. Alors, trois pouvoirs, est-il dit, celui du pape, celui de l'empereur de Byzance, de Constantinople, le sien. Vous en ajouteriez un autre, vous, Michel?
Oui, j'ajouterais volontiers le pouvoir du calife. Enfin, c'est pas moi qui l'ajoute, c'est Eginhard lui-même. Eginhard, quand il a fini de décrire les conquêtes de Charles, qui vont être le support de ce nouvel empire qui se met en place, fait un résumé des pouvoirs dont ce que nous venons d'entendre s'inspire. C'est-à-dire qu'il dit Charles a été en rapport avec les grandes puissances de ce temps. Et ces grandes puissances, c'est celui qu'il appelle Aaron, roi des Perses. Aaron, parce qu'on emploie un terme biblique pour désigner Haroun al-Rachid, le calife abbasside de Bagdad, l'empereur de Byzance, évidemment, ce que nous appelons l'empereur de Byzance, c'est-à-dire l'empire romain continué à Byzance, et puis la troisième puissance, c'est lui. Je crois que ce que nous venons d'entendre insiste trop sur le pape. Le pape, c'est un pouvoir d'une autre nature et finalement qui est beaucoup moins important qu'il ne va l'être par la suite, justement à la suite des Carolingiens.
Qu'est-ce que Eginhard dit d'ailleurs de l'empereur de Constantinople? Il ne doit pas être content, l'empereur de Constantinople, que Charles veuille faire concurrence à son titre.
Alors, c'est absolument insensé de penser qu'il peut y avoir plusieurs empereurs. Ça n'a pas de sens. L'empereur est nécessairement unique, comme l'Église est nécessairement unique. Et alors, ça fait évidemment à Byzance une protestation, enfin c'est quelque chose d'insupportable. Alors Eginhard, j'allais dire là-dessus, en bon chroniqueur un peu officiel quand même, il faut le dire, Eginhard dit que les choses se sont arrangées grâce à la patience de Charlemagne.
Alors fides, patience, voilà. Vous le dites en latin?
Patientia.
Voilà, on note. Hein. Et après, on élargira aussi le champ. Ça, c'est le retour du modèle impérial romain.
Alors, d'une certaine façon, oui. Et c'est le retour des qualités royales ou impériales telles qu'on les trouve chez les grands auteurs, comme Cicéron. Et c'est le modèle romain. Alors, quand on dit le modèle romain, on pense souvent au modèle romain païen. Or, les grands empereurs romains, ceux qui servent de référence, ce sont ceux du IVe siècle. C'est Constantin et Théodose, ce sont les empereurs chrétiens. Et l'empire chrétien, le but de l'empire chrétien, quel est-il? C'est de conduire le peuple au salut. Et donc Charlemagne, avec ses conseillers, Charlemagne lui-même, oui, très conseillé par les grands savants, comme Alcuin, comme Éginard peut-être, eh bien, va s'inscrire dans cette perspective, conduire le peuple au salut. Perspective qui est ni politique ni religieuse, ou qui est politique et religieuse à la fois.
Et alors, quand vous faites l'édition avec votre petit atelier Éginard de la Vita Caroli, vous repérez tous les affleurements de la tradition romaine. Suétone, la vie des empereurs, elle est imitée alors, par la Vita Caroli.
C'est le, je crois, le grand apport de ce nouveau travail que d'avoir repéré, grâce à Christian Combe en particulier, non seulement tous les apports de Suétone, ça on le savait, Suétone c'est le modèle de la biographie antique que prend Éginard, mais tous les apports de Cicéron. Il y a tous les apports, j'allais dire, de la philosophie antique résumée en Cicéron et transmise par Cicéron avec ses vertus que l'on vient d'évoquer et d'autres dont nous parlerons par la suite. Et puis également des affleurements de Sénèque, des affleurements de Tacite, des affleurements de César même à certains moments. Donc il y a une très grande richesse littéraire de ce texte qui n'est pas seulement un récit un petit peu médiocre comme on l'a longtemps pensé.
Alors ça c'est ce qui est en amont, nous allons entendre pour évoquer la mort de Charlemagne dont c'est le 1200e anniversaire, cette musique qui se situe en aval, c'est un anonyme qui a composé Incipit Plunctus Caroli, Katia Carré à la direction, c'est un enregistrement à Fontevraud.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Charlemagne qui meurt le 28 janvier 814 et dont l'œuvre se prolonge avec ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. C'est d'ailleurs bien après sa mort dans les années 820 que se constitue la source principale de sa mémoire, la vie d'Éginard que Michel Sault et d'autres éditent aux éditions des Belles Lettres. Outre les qualités déjà évoquées, fides, patientia, on en a oublié d'autres. Il y a l'hospitalitas, pour les savants, les lettrés, les intellectuels, ça je ne sais pas comment le dire en français.
Oui, Charlemagne fit bon accueil aux étrangers, nous dit Éginard. Alors qui sont ces étrangers? Eh bien, ce sont les gens qui vont constituer sa cour savante. Si l'on peut risquer l'expression, la cour savante de Charlemagne est une cour d'immigrés. C'est-à-dire que nous avons là les gens qui viennent des régions où la culture antique s'est maintenue, s'est transmise, plus que chez les Francs. Mais les Francs, ils sont attentifs, puisque Charlemagne fait venir ses savants. Il fait venir d'Italie, quelqu'un comme Paul Diacre. Paul Diacre, auteur d'une histoire des Lombards, mais auteur d'une grammaire, mais auteur d'un homélière. C'est-à-dire un savant, j'allais dire, on dirait aujourd'hui, un polygraphe. Il fait venir de chez les Visigoths, c'est-à-dire d'Italie, d'Espagne, pardon, de la péninsule ibérique, il fait venir Théodulphe. Théodulphe qui est un spécialiste de la Bible, qui est un poète, un spécialiste de la métrique latine. Il fait venir surtout Alcuin, que nous avons déjà évoqué. Alcuin qui est un anglo-saxon, qui vient d'Angleterre, un pays, j'allais dire, hyper barbare, occupé par les Jutes, les Angles et les Saxons, où la tradition romaine avait pratiquement disparu, et qui, au début du 8e siècle, est de nouveau un pays en pointe dans le domaine culturel. Et tous ces gens-là se retrouvent à la cour carolingienne, ce qui devait donner un bouillon de culture absolument extraordinaire. Comment tous ces gens-là parlaient latin?
Alors, latin, tiens, on s'interrogeait avec Jacques Sigal sur les qualités du latin de la plainte de Charles qu'on vient d'entendre, qui est très postérieure, très certainement. Mais le latin s'établit selon les niveaux auxquels il va être parlé pour la liturgie, pour la chancellerie, pour la conversation lettrée, avec des normes.
Si on parle de Renaissance carolingienne, c'est précisément en grande partie à cause de ça. Parce qu'on revient à un latin qui n'est pas tout à fait le latin classique, mais qui est là aussi le latin du IVe siècle. C'est-à-dire le latin du IVe siècle qui est le latin des grands grammairiens comme Dona, qui est le latin de Saint Jérôme, c'est-à-dire le latin de la Bible en latin. Et la Bible en latin, c'est le texte latin le plus lu tout au cours de l'histoire. Et donc, cette Bible en latin de Saint Jérôme est une norme de la langue latine. Et les Carolingiens, Alcuin en premier, mais tous les gens dont je viens de parler et bien d'autres, ont tous écrit des grammaires. Parce que ce qu'il fallait faire, c'était restaurer la langue latine pour avoir accès aux auteurs antiques, pour avoir accès au texte par excellence qui est la Bible, et pour avoir accès à la véritable langue, la langue que Dieu peut comprendre. Dieu ne comprend pas une mauvaise langue, Dieu ne comprend que la bonne langue latine. Et alors, tout l'effort des Carolingiens, de gens comme Alcuin, encore une fois, a été de rétablir une bonne langue latine, avec des conséquences un peu dramatiques, c'est qu'à force d'épurer la langue, eh bien, elle n'était plus comprise par le peuple.
Alors, on va entendre ici des snobs de la cour, qui ont un latin qui doit être utilisé pour le jeu, pour la poésie, pour la rhétorique. On s'éloigne un petit peu de votre source préférée, Eginhard, année 1820. Nous sommes ici dans les dernières années de tournage de Jean Delannoy. Et sur un scénario, on est aussi ici dans ces dernières années de Jean Anouilh. Alors vous ne connaissez pas, je suis heureux de vous voir sourire et ne pas faire la moue.
Non, ne vous arrêtez pas, non. À quoi jouez-vous ?
Au jeu des tablettes, sire. C'est un jeu subtil où notre reine fait merveille. Un vrai tournoi d'érudition et d'esprit où son Altesse et le contrôlant risquent fort de remporter le prix.
Et vous saviez comme c'est amusant ?
Oui, expliquez-moi. Je veux jouer avec vous.
Le jeu d'aujourd'hui, sire, avait pour thème la philosophie de Platon. Et comme il fallait limiter notre champ, la conception de l'amour chez Platon.
Très intéressant.
Un des joueurs écrit le début d'une pensée de Platon sur l'amour. Les tablettes circulent et chacun s'efforce de la compléter selon ses souvenirs ou son intuition.
Et ça amuse ma petite reine, ça.
C'est merveilleux. L'amour est un sujet inépuisable.
Oui, on le dit. Voyons cela.
Quand votre Altesse est entrée, la pensée arrivait au contrôlant.
Ça doit plus en finir si tout le monde doit écrire.
C'est un jeu où il faut écrire très vite.
Ah, je passe.
Mais si je lis Eginhard, parce qu'il faut que j'en revienne à Eginhard, puisque vous allez être courroucé, Michel Sault. Il est aussi à l'aise, dit-il de Charlemagne, dans le latin que dans sa propre langue, il comprend un peu le grec. Il s'essayait même à écrire. Alors on voit Charlemagne avec des tablettes et des cahiers sous ses oreillers.
Voilà, mais il s'y prit trop tard et le résultat fut médiocre. Autrement dit, il nous faut conclure que Charlemagne ne savait pas écrire. Et donc, c'est là quelque chose de tout à fait surprenant pour nous, mais des anthropologues nous disent que c'est possible. On peut avoir une culture savante, se faire lire Saint-Augustin et comprendre de quoi il s'agit. Peut-être par les Grecs, là, il semble que Eginhard en rajoute un petit peu. Mais avoir une culture savante, savoir lire, mais ne pas savoir écrire, ce qui pose des problèmes d'apprentissage aujourd'hui.
On l'entend ici dans le scénario de Jean Anouilh, il parlait des femmes. Vous pourriez peut-être nous dire quelques-unes des vertus domestiques de Charlemagne.
Oui, alors sur ce plan, évidemment, Charlemagne, donc nous lui connaissons 9 épouses, 19 enfants.
Eginhard parle de concubines.
Alors, épouses et concubines, ah oui, j'avais pas. Oui, il y a 4 épouses et 5 concubines. Enfin, 4 ou 5 selon les manuscrits. C'est-à-dire que dans certains manuscrits, il y en a un petit peu moins.
Il y en a même une, la première, qui est restée au palais seulement 18 mois, et du coup, on n'a même pas retenu son nom.
Alors, il y a des problèmes d'érudition importants sur cette question. Alors, la place des femmes, c'est de donner un héritier. Or, un héritier, il n'en restera qu'un en 814. Pas sur les 19, parce qu'il y avait des filles et des garçons. Mais il ne restera qu'un héritier, et ce sera Louis le Pieux, qui sera le successeur.
Donc on ne peut pas parler de fidelitas, on peut parler de magnanimitas. Alors ça, C'est la vertu suprême.
Alors, c'est la vertu principale de Charlemagne. Hein. Et le Magne, c'est Magnus, certainement. Mais ce Magnus, c'est pas seulement grand, nous employons grand pour d'autres. Magnus, c'est celui qui exerce la magnanimitas, c'est-à-dire la vertu impériale par excellence, hein, de reconnaissance de chacun dans son rôle, dans sa position.
Magnanimitas, ça suppose prudence, et puis... aussi, imprudence, engagement fort, je voulais vous soumettre un extrait encore du film de Delenoy et Anouilh. Vous allez voir que ça se termine par l'évocation d'une autre vertu, l'europeanitas, si je puis dire.
Il serait intéressant que ce soit en latin.
Je crois que l'on doit donner la foi aux païens comme le lait aux enfants, goutte à goutte.
Je n'ai pas le temps de faire du goutte à goutte, moi.
Je songe au mal que se donne le pasteur de l'Évangile pour aller chercher toute la nuit la brebis égarée dans la montagne.
Tu n'es pas une brute, Alcoin. Je sais que la parabole est admirable, mais la brebis égarée, c'est tout de même du luxe. Moi, ce sont les 99 autres qui m'intéressent. Dieu, il peut faire le raffiné et l'artiste, moi pas. Il improvise, c'est sa grâce. Moi, j'organise. Je construis l'Europe chrétienne.
Je construis l'Europe chrétienne. Alors vous avez une excellente disciple qui s'appelle Marie-Céline Isaïa. Ce n'est pas faire insulte, dit-elle, à l'Europe que de dire qu'elle mérite mieux que Charlemagne comme père adoptif.
Je suis tout à fait d'accord. Pas seulement parce que c'est ma disciple, comme vous venez de dire, hein, mais parce que l'Europe de Charlemagne, j'allais dire... c'est comme l'Europe de Napoléon, et malheureusement un peu comme l'Europe d'Hitler. C'est-à-dire que c'est l'Europe impériale, mais pas au sens de l'Empire antique, mais c'est l'Europe impériale impérialiste, c'est-à-dire la prise de contrôle d'une Europe. Alors que la démarche européenne dans laquelle nous sommes engagés, avec toutes les difficultés que nous connaissons, c'est une démarche volontaire, c'est une démarche des peuples. Et donc, ça n'est pas que Charlemagne ait réuni un certain nombre de territoires qui peuvent ressembler à une Europe... Petite Europe, hein, c'est l'Europe des Six, c'est celle du traité de Rome, hein, l'Europe de Charlemagne. Eh bien, c'est bien sûr une image, mais je ne pense pas que Charlemagne ne soit en aucune façon le père de l'Europe.
Allez, juste un mot des limites de cette Europe. Alors, l'Espagne n'en était pas vraiment.
Non,
l'Italie,
directement et indirectement. Presque toute l'Italie, quand même, ouais. Si on compte les États du pape. Alors, vers l'Est, eh ben, nous allons jusque, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'au Danube, enfin jusqu'à la plaine du moyen Danube, mais qui est une marche de l'Est. Donc, c'est en gros l'Allemagne actuelle, et puis qui, au-delà, c'est les pays slaves. Et puis, si on va vers le Nord, c'est le Benelux, enfin ce qu'on appelait le Benelux, pas l'Angleterre. Hein,
pas l'Angleterre.
Pas les îles britanniques, hein, voilà. Qui sont un des hauts lieux de la culture. Et finalement, oui, c'est, je pense à l'Europe du traité de Rome.
Vous notez bien, chers auditeurs, pas d'Angleterre, ni même vraiment de Bretagne au sens actuel du mot. Merci à vous, Michel Le Sault, votre vie d'Eginard, avec Christiane Combe et tout un atelier aux éditions des Belles Lettres.